Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une série de documents qui racontent une histoire assez folle.
Bonjour.
Celle d'un pays qui vit une sorte de réalité sur deux écrans en même temps.
C'est exactement ça.
Sur le premier, on a une catastrophe climatique, des inondations, vraiment d'une ampleur biblique. Et sur l'autre écran, au même moment, des projets économiques qui tournent à plein régime, des réformes de société qui avancent.
Et ce pays, c'est le Maroc.
Oui. Et notre source principale, c'est un hebdo, l'ODJ eWeek, qui date de la première semaine de février 2026.
Exactement. Et je pense que l'intérêt de ces documents, ce n'est pas de regarder chaque info séparément, mais de les superposer.
Ah oui, c'est la juxtaposition qui est intéressante.
Voilà. On va explorer cette tension permanente entre, disons, le temps court, l'urgence absolue, la gestion de crise, et puis le temps long, la construction stratégique, les transformations profondes.
Comment une nation navigue, en fait, quand elle est tirée dans deux directions à la fois?
C'est ça. C'est la vraie question que posent nos sources aujourd'hui.
Alors, commençons par le temps court. L'urgence, ce qui fait la une. Le nord-ouest du Maroc est littéralement sous l'eau.
Oui.
Les plaines du Garbe, du Loukos, l'article décrit ça comme une mer intérieure. Il parle de torrents dévastateurs. On a un chiffret, il donne le vertige.
C'est plus de 143 000 personnes.
Plus de 143 000 personnes évacuées. Il faut prendre une seconde pour visualiser ça. Ce ne sont pas des stats. Ce sont 143 000 vies chamboulées, des familles à Tétouan, à Sidi Kassem, qui ont dû tout laisser derrière elles.
Et face à ce chaos, la réponse de l'État est décrite avec des mots très forts. Le journal parle d'une efficacité redoutable.
Efficacité redoutable.
Oui, et même d'une chorégraphie logistique de haute précision. Apparemment, une doctrine du zéro victime a été mise en place. Et ce n'est pas juste un slogan.
Ah non, ça a été appliqué.
On voit la mobilisation des forces armées royales, de la gendarmerie, de la protection civile, les images d'hélicoptères, de zodiacs dans les rues inondées. Ça montre une capacité de réaction qui est impressionnante. C'est une vraie démonstration de force logistique.
Mais alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au milieu de ce succès logistique, l'article soulève un paradoxe immense.
Oui, le paradoxe de l'eau.
C'est ça. On a près de 3,8 milliards de mètres cubes d'eau, une manne céleste, comme ils disent.
Qui ont été déversés dans l'Atlantique.
Voilà. Perdu. Et c'est qualifié de crève-cœur pour un pays qui vit sous la menace constante du stress hydrique.
Crève-cœur, le mot est bien choisi, parce que ce paradoxe, il soulève une question fondamentale sur la stratégie à long terme. Comment un pays peut se préparer à la fois à la pénurie et à l'excès d'eau?
L'alternance climatique devient de plus en plus violente.
Exactement. La crise actuelle, ce n'est pas seulement un événement météo, c'est un test pour l'aménagement du territoire, pour la gestion des infrastructures comme les barrages.
Alors, que se passe-t-il après l'urgence? L'article insiste beaucoup sur l'après. La nouvelle bataille, c'est celle de la reconstruction, de l'indemnisation.
Oui, et c'est un point crucial. L'auteur fait un parallèle avec le séisme d'Al-Haus.
Ah oui, il suggère que les leçons ont été apprises.
C'est ça. Le défi, c'est de passer d'une gestion de crise verticale, donc du haut vers le bas, à une reconstruction qu'il qualifie d'horizontale, sociale et humaine.
Horizontale, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire qu'il s'agit d'éviter que les victimes deviennent de simples, je cite, « dossiers administratifs en souffrance ».
D'accord.
Il faut leur redonner non seulement des biens, mais aussi des perspectives, un espoir.
D'accord. Donc, sur notre premier écran, on a cette gestion de crise, mais aussi ce paradoxe tragique. Et maintenant, changeons de chaîne. Pendant que des zodiacs naviguent dans les rues, que se passe-t-il sur l'autre écran, celui du Maroc stratégique?
Eh bien, sur cet autre écran, le pays tourne à une vitesse impressionnante. Et il y a deux infos qui l'illustrent parfaitement. D'un côté, au nord, le port de Tanger Med.
Oui.
Un encadré nous apprend qu'il a dépassé la barre des 11 millions de conteneurs traités en 2025.
11 millions ?
C'est un record. Ça confirme son rôle de leader logistique en Afrique et en Méditerranée.
C'est un hub mondial.
Complètement. Et de l'autre côté, à Dakhla, donc tout au sud,
oui,
se tenait le salon Seafood for Africa 2026.
Qu'est-ce que ça nous apprend, ce salon ? Le document dit qu'il a réuni l'écosystème halieutique africain au complet. C'est une affirmation assez forte.
C'est très significatif si on relie ça à la vision d'ensemble. Dakhla est positionné comme un hub naturel et un carrefour de business continental.
Pour ce qu'on appelle l'économie bleue.
Voilà. L'objectif, c'est mentionné dans le texte, c'est de construire des chaînes de valeur africaines durables, innovantes et performantes.
En gros, il ne s'agit pas juste de vendre du poisson.
pas du tout. Il s'agit de développer toute l'industrie qui va avec, la transformation, la logistique, la technologie. Donc ces deux informations, Tangemed et Dakhla, elles dessinent une stratégie très cohérente.
Faire du Maroc un carrefour incontournable.
Un carrefour pour le commerce et l'investissement entre l'Afrique et le reste du monde. C'est la vision du temps long qui se construit brique par brique.
D'accord, donc on a vu la gestion de crise, la stratégie économique, et maintenant les sources nous emmènent au cœur de la société marocaine, avec des réformes importantes.
Oui, le troisième volet.
On commence par une qui concerne les chèques sans provision. Une nouvelle loi, la numéro 71.24, vient entrer en vigueur.
Et c'est une réforme de fond, vraiment. Le Maroc abandonne une approche tout répressive.
Pour une logique de régularisation financière.
C'est ça. Concrètement, les peines de prison sont réduites. De 5 ans maximum, on passe à une fourchette de 6 mois à 3 ans.
D'accord.
Mais le plus important, c'est que le paiement du chèque met fin à l'action publique, même après un jugement. Et la pénalité financière, elle est aussi drastiquement réduite. Elle passe de 25% à 2% du montant.
Mais pourquoi cette réforme était si urgente ?
Ah, les chiffres donnés pour 2024 sont éloquents. On parle de près de 972 000 incidents de paiement.
Quasiment un million !
Un million ! C'était un problème de masse qui engorgeait les tribunaux. Donc la loi, elle vise à dédramatiser la situation.
Dédramatiser ? Et aussi à sortir les conflits familiaux du champ pénal, si j'ai bien lu.
Oui, et ça c'est très important. L'idée, c'est de se concentrer sur la résolution du problème financier plutôt que sur la sanction.
D'accord. Autre sujet, une autre note mentionne un changement à la tête de la Trésorerie Générale du Royaume, la TGR, le départ de Noureddin Ben Souda après plus de 15 ans.
Oui, et ce départ, il intervient dans un contexte de réforme assez sensible.
Laquelle ?
Le recouvrement des taxes locales, qui doivent être transférées aux collectivités territoriales.
Ah, d'accord. Ce n'est plus l'État central qui collecte pour les mairies.
C'est l'idée. Mais cette transition, selon le document, elle crée des inquiétudes et des zones grises au sein de l'administration.
J'imagine, c'est un gros changement de pouvoir.
C'est une petite révolution et ça illustre bien la complexité et les tensions, en fait, qui sont inhérentes à la conduite de réformes structurelles dans un État.
Donc, pour résumer, ce tour d'horizon de l'actualité marocaine, de début 2026, ça nous montre un pays...
sur plusieurs fronts.
Une gestion de crise climatique impressionnante.
Une ambition économique affirmée.
Et des réformes internes profondes qui touchent à la fois le citoyen et l'administration.
Et c'est la juxtaposition de ces événements qui est le plus instructif.
C'est ça.
Ça révèle un pays en pleine mutation, capable du meilleur dans l'urgence, mais qui est confronté à des défis structurels, complexes pour l'avenir.
Une tension constante entre le spectaculaire et le structurel.
Précisément. Et ça nous amène à une dernière pensée qui est inspirée par une autre information des documents.
Laquelle ?
Une charte du 11 janvier 2026 pour la jeunesse. Elle est mentionnée, portée par la génération Z, avec la volonté de, je cite, « poser les bases d'un nouveau pacte national ».
Un nouveau pacte national ? C'est ambitieux ?
L'eau, la place dans l'économie mondiale, la modernisation de la justice.
Oui.
On se demande qui va devoir gérer tout ça.
Qui va devoir gérer cette réalité sur deux écrans ?
C'est cette jeunesse. Donc la question qui reste en suspens, c'est quelle forme prendra ce nouveau pacte que cette génération devra construire pour naviguer dans la complexité du monde de demain ?